Alors, je récapitule un peu le point où nous arrivons. À l'aide aussi d'un schéma, qui vaut comme tous les schémas ce qu'il vaut, hein, il ne faut pas se river trop, mais enfin, ça peut éclairer. Maxime a dû exclure la notion d'une nature composée pour le Christ, une composition de Dieu et de l'homme dans le Christ est à exclure. Si je devais représenter ce que serait cette composition, pour dire c'est quelque chose comme ça, il y aurait, si je représente la divinité par ce schéma, cette circonférence, on pourrait dire que l'humanité est comme absorbée, vient se fondre, les caractéristiques de l'humain, du Christ, viennent se fondre et se composer donc dans la divinité, dans l'être divin du Christ, dans la nature divine du Christ. Et Maxime, donc, à la suite de Calcédoine, c'est pas lui qui conçoit tout ça, c'est fait progressivement. Si je devais représenter comment il voit les choses, je dirais il y a la Trinité. On va la représenter par un triangle, si vous voulez, c'est assez habituel comme schéma. Le schéma du triangle ne peut pas dire tout de la Trinité. Pour que les trois personnes soient égales et composent, soient une unique nature, une unique essence divine, il faut que le triangle soit équilatéral. À ce moment-là, chaque angle, vous voyez, prend tout le triangle, et en même temps, le triangle n'existe que s'il y a les trois pôles qui sont en opposition relative les uns avec les autres. Qu'est-ce que ce schéma ne dit pas? Il ne dit pas l'ordre trinitaire. Il dit qu'un triangle équilatéral, vous pouvez le prendre dans n'importe quel ordre, et ça ne vous dit pas l'ordre trinitaire. Mais ici, il est intéressant pour nous. Comment se situe l'incarnation là? Eh bien, je vais peut-être améliorer un petit peu la chose pour dégager ici la pointe du triangle. Donc je vais mettre fils ici, et ce même rond qui représente l'humanité du Christ, il vient comme cela, il est assumé, hein, ça c'est l'humanité assumée, divinité, ici j'ai divinité. Vous voyez qu'ici l'humanité était assumée finalement dans la nature divine. Donc d'une certaine manière, si on affirme que le Christ a une nature composée, c'est toute la Trinité qui s'incarne, puisque la nature est commune aux trois personnes. En revanche, ici, l'humanité est assumée dans la personne du Fils, c'est-à-dire dans ce qui le distingue du Père et du Saint-Esprit. Donc c'est assumé en Dieu, mais non pas dans la nature divine, dans ce qui est commun aux trois, mais dans ce qui différencie le Fils du Saint-Esprit. C'est là que nous étions restés la dernière fois. Mais les choses sont plus compliquées, parce que là je suis en train de représenter la nature humaine. Mais est-ce que c'est la nature humaine générique que le Christ a prise? Oui, en ce sens que chacun de nous est de nature humaine, tout être humain est de nature humaine. Mais le Christ, c'était pas... certains pères, comme Grégoire de Nice, ont dit que le Verbe avait assumé l'humanité générique, en quelque sorte, l'humanité spécifique, en tout cas, c'est-à-dire tout l'humain. Je me souviens encore le font toujours, des sœurs que j'aime énormément, c'est pour ça que je ne dirai pas leur nom, non mais je les aime vraiment, c'est une congrégation qui m'est très chère et qui, qui fait une crèche qui était jadis très célèbre, dans laquelle l'enfant Jésus, un jour je le regarde, je leur dis, mais il est étrange cet enfant Jésus. Et effectivement, elles me disent, mais c'est parce qu'il représente l'homme avec grand H. Et donc, il a les yeux bridés d'un asiatique, il a un nez africain et des lèvres européennes. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas Jésus. Vous comprenez, Jésus, il est des sémites, il est des juifs. Vous voyez, on passe directement à une humanité générique, globale. Donc on essaye de mettre toutes les caractéristiques des différentes races dedans. Mais ce n'est pas le Christ. Le Christ, il est venu pour tous, mais à travers du particulier. Le particulier de son peuple et de la partie du monde dans laquelle il est né, etc. Mais aussi la particularité de son individualité. Alors, Véro, Jésus n'est pas un individu, puisque l'individu, c'est la personne, et la personne, c'est la personne éternelle du Fils. Mais il a quand même une nature individuée. Jésus mesurait et mesure toujours d'une certaine manière, je ne sais pas combien, mais une certaine taille. S'il était brun, il n'était pas blond. S'il avait les yeux noirs, il ne les avait pas bleus. Vous voyez, il a des caractéristiques individuantes. Or, l'union hypostatique, elle se fait. C'est ça l'hypostase. Je vous dis ça pour que vous compreniez ce que c'est qu'une hypostase composée ou une hypostase synthétique. C'est que dans la nature humaine, la jonction se fait à travers les caractères individuants de Jésus. Les caractères individuants de Jésus, c'est ce qui fait de lui une humanité individuelle, particulière. Il a bien sûr les traits communs de toute la nature humaine, mais ce n'est pas par ces traits communs que s'est fait l'union hypostatique, c'est par les caractéristiques tout à fait singulières, particulières de Jésus. Hein, on est bien d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les caractéristiques individuantes de Jésus, c'est-à-dire ce qui le distingue des autres hommes, ce qui fait qu'il n'était pas n'importe quel autre homme, et ce qui va, c'est par là que va se faire l'assomption. Vous voyez, par ce qu'il a de plus singulier dans l'humanité, par ce qui le distingue des autres dans l'humanité. Donc, du côté divin, c'est par ce qui le distingue du Père et du Saint-Esprit dans la consubstantialité. Il y a une grande différence. C'est qu'ici, ça se passe dans la consubstantialité, c'est-à-dire que c'est un même être et même exister. Tandis qu'ici, nous n'avons qu'une nature spécifique, donc abstraite, d'une certaine manière, qui n'existe pas en elle-même. Et c'est par les caractères individuants, et c'est ces caractères individuants qui deviennent ceux du Verbe incarné, du Verbe en tant qu'incarné. Ce qui fait que, en voyant Jésus, en voyant le visage de Jésus, et c'est ça l'icône du Christ, je vais vous parler de ce livre, en voyant Jésus, on voyait le Fils. Non pas dans la divinité, mais on voyait le Fils dans l'humanité. Et c'est ainsi qu'on voyait celui qui est l'image du Dieu invisible. Et donc, du coup, on voyait le Père par relation. Hein, qui m'a vu, a vu le Père. Dans ce que Jésus avait d'unique dans son humanité, transparaissait quelque chose de ce que le Fils a d'unique dans la divinité. Mais dans ce cas, nous sommes dans des caractéristiques individuantes de la nature humaine, et ici, nous sommes dans des relations des caractères qui sont totalement relatifs à l'intérieur de la consubstantialité. Je comprends que, évidemment, pour ceux qui n'ont par exemple pas fait encore le traité de la Trinité, ça, il y en a peut-être parmi vous, mais tout le monde a fait déjà le traité de la Trinité. Alors, évidemment, vous devez avoir l'impression de nager un peu. C'est inévitable. En théologie, c'est toujours comme ça. On anticipe certaines choses, parce que comme tout suppose tout dans la connexion des mystères, on est tout le temps boiteux jusqu'à la fin des études, où à peu près les choses commencent à se mettre le plus... Pardon ?
Jusqu'à la vision béatifique.
Mais déjà, quand même, quand on a fait le tour, il y a des choses dont on se dit que oui, effectivement, ça s'emboîte à peu près. Mais bien sûr, ça n'est pas vu dans la simplicité, ça c'est clair. Donc vous voyez, c'est parce que, et Maxime va utiliser cette expression, c'est parce que le Fils avait de différent du Père et du Saint-Esprit dans la consubstantialité qu'il assumait l'humanité, et l'humanité était assumée par ce que Jésus avait de différent des autres hommes. Parce que si nous sommes, là vous voyez que l'union, l'assumption ne se fait qu'au niveau de la personne, qui du côté divin est un mystère de relation subsistante, et du côté humain, ce sont les caractéristiques individuantes. Sauf que chez nous, les caractéristiques individuantes, c'est l'individu. Nous sommes des individus, notre personne. Personne et individu, dans l'homme, c'est un peu la même chose. Tandis que pour Jésus, on ne peut pas dire qu'il était individu. Parce que sa personne était divine. Mais c'était une personne divine s'exprimant humainement à travers les caractéristiques individuantes de l'humanité. D'une humanité, celle de Jésus de Nazareth.
S'il vous plaît. Est-ce qu'on a pu réfléchir sur le statut de la Trinité pendant les jours temporels du Fils de Dieu, c'est-à-dire pendant que Jésus était avec nous dans l'économie.
La Trinité ne change pas. Il ne faut pas imaginer que l'incarnation, pas juste la création, et que n'importe quel acte divin, apporte un quelconque changement à la vie trinitaire. Si vous prenez les définitions de Calcédoine, c'est toujours comme ça. Il est devenu homme sans changement. Le changement, ça c'est depuis Saint Athanas, ça a été tiré au clair. Parce que votre raisonnement était celui que tenaient les Ariens. Vous allez comprendre pourquoi. Les Ariens disaient, mais bien sûr que le Verbe est inférieur au Père, puisqu'il s'est incarné. Donc, il a changé dans l'incarnation. Le Père, lui, n'a pas changé. Donc, c'est le Père qui est vraiment Dieu. Et le Fils, il est Dieu comme ça, un peu moins. Et Athanase a répondu en disant, non. Dans l'incarnation, ce qui change, c'est l'humanité assumée. C'est pas le Verbe. Le Verbe est assumant. Et le Verbe ne change. Le Verbe ne change pas, sinon c'est la volatilisation de la transcendance. Je sais bien que tout Hegel et tout ce qui vient après Hegel prétend ça, mais c'est totalement contrairement à Hegel. Effectivement, mais si vous avez une théologie dialectique, etc., vous allez dire que Dieu devient, entre dans le temps, et donc vous allez faire un roman trinitaire, c'est-à-dire que vous allez penser que le Christ qui sort du sein du Père, et c'est-à-dire c'est comme s'il quittait la maison paternelle, puis il vient faire un tour comme ça dans la, dans l'humanité. Entre-temps, on ne sait pas trop, il y a une place qui reste un peu vide dans la Trinité.
Vous voyez, vous faites ce qu'on appelle le roman trinitaire, et certains, on a reproché à Balthazar parfois de ne pas être loin du roman trinitaire, par un excès de langage métaphorique introduit dans la vie trinitaire elle-même. C'est tout le statut là de l'analogie. On ne peut pas attribuer à Dieu des choses qui sont contraires à sa transcendance, à son intimité. Et on voit très bien que les conciles christologiques, je dis ça parce que j'insiste sur le fait que c'est les conciles christologiques qui ont dit ça, parce qu'on dit souvent, mais ça c'est du thomisme. Mais non, je regrette, c'est pas du thomisme. Bien sûr que saint Thomas le dit aussi. Mais vous le trouvez chez Bonaventure et chez tous, et vous le trouvez déjà, c'est dans l'esprit de l'Église, c'est la foi, puisque c'est des textes conciliaires majeurs. À chaque fois, ils insistent sur ça. Et c'est Athanase qui a le premier formulé les choses très clairement, parce que c'est vrai que dans les premiers siècles, on voyait beaucoup le Verbe dans sa mission médiatrice, dans sa mission entre Dieu et le cosmos, en quelque sorte. Et donc, c'est vrai que le Verbe était un peu dans une fonction un peu subordonnée par rapport au Père. Et c'est Nicée qui, en affirmant la consubstantialité, et Athanase, dans les discours contre les Ariens, dit, ben non, ce qui... La nouveauté, le changement, il est du côté de la nature assumée, il n'est pas du côté de la personne assumante. La personne assumante ne peut pas changer. Bon, mais ça mènerait très loin. Disons que pour Maxime, évidemment, une chose, pareille chose est totalement réglée, on est très loin déjà de ces débats contre l'arianisme. Je voulais, quand je vous disais, c'est ça, c'est l'icône du Christ. Le fait que le Fils nous soit donné à travers les caractères individuants de Jésus, ça c'est le mystère de l'icône du Christ. Et vous avez ici un livre majeur, vraiment je le dis sans aucune gêne, même si c'est le livre d'un très grand ami, pour moi c'est un des grands livres de la théologie du XXe siècle. Ne croyez pas que c'est un livre sur l'icône. Accessoirement, c'est un livre sur l'icône, mais c'est surtout un livre sur le Christ comme image dans sa divinité et dans son humanité. Et en fait, c'est une synthèse de la christologie des pères et des conciles, surtout orientaux, de Nicée 1, 325, à Nicée 2, 787. Concile sur les icônes, les sept conciles écuméniques et tout le développement patristique. Je pense que c'est vraiment un de ces livres que je qualifie absolument d'incontournable dans la théologie du XXe siècle. Je le mets à la hauteur de Méditation sur l'Église du Père de Lubac, etc. C'est un très 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 grand livre. Je ne connais pas de livre sur la christologie des conciles, des pères et des conciles aussi grands que le livre du cardinal Schönborn, l'icône du Christ. L'icône du Christ, fondement théologique. Mais je vous dis, d'une certaine manière, je trouve un peu dommage qu'il ait mis l'icône au lieu de l'image, même si effectivement, ça, il montre que tout ça aboutit à une théologie de l'icône, puisque dans la querelle iconoclaste, qui sera la dernière grande querelle christologique, la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut représenter le Christ? Est-ce qu'on peut circonscrire par un dessin le visage du Christ? Et justement, les iconoclastes disent non, parce que il a une humanité générique, il a une humanité, donc elle est irreprésentable. Et les pères orthodoxes, saint Théodore le Studite, saint Nicéphore de Constantinople, etc., diront non, parce qu'il nous est donné à travers, justement, les traits individuants, les traits particuliers de Jésus. Alors, bien sûr, l'icône essaye de le représenter. Vous savez qu'à Byzance, en Orient, dès le IVe siècle, on voit apparaître un certain type du visage du Christ, alors que dans les tout premiers siècles, visiblement, on représente le Christ de manière métaphorique, c'est-à-dire on le présente comme un bon pasteur, sans barbe, vous voyez, selon des modèles qui étaient ceux de l'art romain, si vous voulez. À partir du IVe siècle, soudain, on voit apparaître un type qui est le type du Christ, que de toutes les représentations du Christ, encore aujourd'hui, moderne, etc. D'où est-il sorti? Il semble bien qu'il est sorti de l'arrivée à Constantinople, de ce qu'on appelle maintenant le Saint-Suaire, le Suaire de Turin, et qui était vénéré, plié, et on voyait seulement le visage, parce qu'il y a une tache de sang ici, qu'on reproduit comme si c'était un cheveu, comme si c'était une mèche de cheveux qui tombait sur le front. Ça, il y a eu des études très savantes sur la question, semble bien. Donc, dès qu'on a eu cette fameuse image achéropite, c'est-à-dire non faite de main d'homme, immédiatement, toute l'iconographie du Christ a repris ce modèle, si vous voulez, pour essayer d'aller le plus près possible des traits personnels de Jésus, qui nous donne le Fils incarné. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux schémas? Là, c'est le schéma chalcédonien, mais affiné, je dirais, développé encore par Maxime, puisqu'on ne se contente pas seulement de parler des deux natures dans la personne du Fils, mais on voit que le point d'assomption, de jonction en quelque sorte, va se faire par un élément personnel. Ce qui distingue le Fils du Père et du Saint-Esprit au sein même de la consubstantialité, l'unique être divin, et dans l'humain, ce qui distingue l'humanité de Jésus des autres hommes, ce qu'il y avait de particulier, de singulier dans le Christ, et qui devait certainement se sentir quelque part dans son regard, penser à Nathanaël qui a été touché simplement parce que le Christ l'a regardé sous le figuier. Le regard du Christ, il y avait quelque chose, non seulement dans sa parole, mais dans son physique, qui devait donner quelque chose du mystère du Fils éternel. Bon, nous verrons, ce sera la dernière partie de mon cours, que ce qu'il y a de plus original, beaucoup plus encore que les caractères individuels de l'humanité du Christ, qu'est-ce que nous avons d'absolument singulier, encore plus que les traits de notre visage. Les traits de notre visage sont une combinaison de gènes, si j'ose dire, qui sont, il y a une sorte de stock de possibilités dans l'humanité, dans le patrimoine commun de l'humanité, et dans chacun de nous, ça se combine un peu comme ceci, un peu comme cela. Il suffit d'aller, par exemple, quand vous allez en France, dans des régions, quand vous voyagez, que vous allez d'une région à l'autre, ben vous voyez des types de visages, vous vous rendez compte que dans telle région, on voit un certain type de visage, on dit un type de breton, c'est un type d'alsacien, etc. Vous sentez qu'il y a une certaine typologie par région, ce qui montre bien que la personnalisation de notre corps est assez limitée, je dirais. Qu'est-ce qui, en revanche, nous est absolument singulier? Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Oui, mais comment va s'exprimer la singularité de mon âme? Dans quelque chose qui me dit moi, et, parce que l'âme, elle est de la même nature. L'âme de chacun de nous ici est de la même nature. Mais qu'est-ce qui va traduire l'élément personnel de l'âme?
Incommunicabilité.
Pardon ?
Incommunicabilité.
C'est l'acte libre. La personnalisation de l'acte libre, de l'acte humain. Le choix que je fais. Donc, ultimement, j'allais dire mon visage de sainteté. C'est là que je suis le plus personnalisé. Et c'est pour ça que pour Maxime, c'est dans les actes libres du Christ que son élément le mystère du Fils apparaît le plus profondément. Dans son obéissance au Père, dans tout ce que Jésus a dit, a fait librement comme homme. Parce que là, il est seul à agir, je veux dire. Bien sûr, comprenez-moi bien, toute la Trinité cause l'assomption de l'humanité du Christ. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire la Trinité tout entière comme un acte divin qui se saisit, même crée l'âme de Jésus, mais la donne au seul Fils, pour qu'elle soit, il en soit le sujet. Donc, l'acte prend bien son origine dans Dieu, et dans la divinité commune aux trois personnes, mais se termine au seul Fils, à l'assomption dans le seul Fils. Ce qui fait que ce que va refléter le Fils, qui m'a vu, a vu le Père, les relations vont apparaître, puisque ce que Jésus fait est propre au Fils. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais en revanche, comme le Fils est une relation subsistante divine au Père et au Saint-Esprit, dès que Jésus parle, dès que Jésus agit, on voit apparaître des relations trinitaires. Et la Trinité se révèle dans l'incarnation, dans le Christ incarné. Donc, vous trouverez tout un chapitre ici, dans le livre de Christophe Schönborn, tout un chapitre sur Maxime. Alors, comme il y a il y a eu des rééditions de ce livre, la pagination, je ne vous donne pas la pagination, mais c'est... Pardon ?
J'ai regardé ce matin,
c'est la même. C'est la même pagination ? Alors, page 105, la charité, icône de Dieu, Saint Maxime le Confesseur. C'est dans les actes, il faut que le monde sache que j'aime le Père, dit Jésus. C'est dans les actes de charité du Christ par rapport au Père et par rapport à nous que se dévoile son mystère filial.
Vous avez dit que le Fils est une relation subsistante. Est-ce que ça reste pareil quand le Fils s'incarne? Quand il a une humanité créée, est-ce qu'il est toujours...
Tout pareil. Lui ne change... Nous sommes bien d'accord que la Trinité ne change pas, n'est pas altérée, sans altération. C'est le refrain que je disais tout à l'heure pour le Père, toujours sans altération, sans changement, etc. C'est ce que disent les conciles à chaque fois qu'ils parlent de l'incarnation.
En tant qu'homme, il est relation subsistante.
Disons, cette relation subsistante constitue le Fils dans la Trinité, devient sujet de l'humanité du Christ. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, je vous dis, donne le terme qu'utilise Maxime, est onipostasiée dans cette personne divine du Fils qui est relation subsistante au Père et au Saint-Esprit. Que veut dire onipostasiée ? Ça veut dire que tout ce qu'est là de particulier est là pour exprimer et servir le mystère personnel du Fils. Ce qu'on peut traduire en termes d'instrumentalité. Mais vous remarquez que le terme d'instrumentalité reste à un niveau simplement de Dieu, du divin et de l'humain. Reste à un niveau plus spécifique. En hypostasie, nous rappelle que c'est pas seulement un instrument pour la divinité, pour se manifester, etc., mais que c'est quelque chose qui se fait par l'élément le plus personnel du côté de Dieu, une des personnes, une des relations subsistantes, et du côté de l'homme, les caractéristiques individuelles de Jésus. Oui. Alors ça, c'est l'œuvre de la grâce. Alors, c'est que la grâce va communiquer quoi ? Une participation
à l'habitus le plus profond de l'humanité de Jésus, et qui est comme l'empreinte que laisse sa personne divine dans son humanité. Cette onipostasie donne à l'humanité de Jésus une qualité de grâce, qu'on appelle la grâce capitale, et qui, elle, est la source de toute la grâce. C'est-à-dire, toute la grâce est une assimilation, si vous voulez, à l'élément de la sainte humanité du Christ qui porte sa filialité.
Donc, à mesure, les personnes peuvent devenir des relations.
Non, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Les personnes humaines ne peuvent pas devenir des relations subsistantes. Mais les personnes humaines acquièrent, par participation, quelque chose de la qualité nouvelle qu'a l'âme de Jésus, qu'a l'humanité sainte de Jésus, et qui sont toute cette vie vertueuse, toute cette, et ultimement la charité du Christ. C'est la charité du Christ qui communique quelque chose. Donc au plan relationnel, mais ça sera une relation de l'homme à Dieu, opérative, si vous voulez. Ce qui dans le Christ se situe au niveau ontologique de l'être, dans la divinisation, mais vous m'obligez là à anticiper beaucoup de choses, dans la divinisation se passe à un plan opératif. C'est-à-dire que ce sont mes actes, en particulier mon acte de charité, qui va s'exprimer, va porter la marque du Christ, la marque filiale du Christ. Donc toute ma vie théologale, et en particulier la charité, qui est celle qui atteint Dieu le plus ultimement. Mais évidemment, je vous dis, entre le Christ n'est pas une personne humaine divinisée. C'est la personne divine, là vous le comprenez tout de suite, la personne divine prenant une humanité pour nous sauver, pour se donner à nous, etc. Tandis que nous sommes des personnes humaines qui resteront toujours des personnes humaines et qui n'entreront jamais, ne deviendront jamais une personne trinitaire. Nous resterons des individus. Mais au plan opératif, c'est là que se fait la divinisation. Mais ça, c'est vraiment un autre cours. Hein, je veux dire, Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on est dans un point tellement central du mystère que ce n'est pas étonnant que surgissent toutes les questions en même temps, parce qu'on est dans une centralité absolue du mystère. Alors, je vous lis les textes. Je vais sauter. Nous étions page 2 du deuxième jeu de texte. Père Gilles, je compte sur vous parce que ça va aller jusqu'à
17h.
Jusqu'à 17h, d'accord. Donc je vais sauter les numéros 5. On s'était arrêté juste avant le numéro 5. Je vais sauter le numéro 5, 6 et 7. Vous pourrez les lire. Ce sont un rappel trinitaire qui dit ce que sont les hypostases dans la Trinité, pour Maxime. Et j'en viens au numéro 8 qui va faire l'articulation entre Trinité et Christologie. Je vous signale, car c'est vraiment l'objet aussi de sa thèse, avec le livre du père Schoenborn, je vous signale, pour ceux qui voudraient avoir une étude de plus approfondie de sa maxime, la thèse du père Pierre Piret, P-I-R-E-T. Père Piret est un des professeurs de l'IET de Bruxelles, hein, des jésuites, et il a fait sa thèse sur Maxime le Confesseur. Il l'a publié il y a longtemps déjà, c'est un homme de ma génération, il l'a publié dans la collection Théologie historique sous le titre de Maxime le Confesseur, je crois, Trinité ou Trinité et Incarnation chez Maxime le Confesseur. Et il étudie forcément cette articulation dont nous sommes en train de parler. Le texte que je mets au numéro 8 va devenir très parlant pour vous maintenant. Le Verbe de Dieu lui-même nous enseigne clairement qu'il existe selon l'essence et la nature, selon laquelle il est identique et consubstantiel au Père et à l'Esprit. tout en gardant sans confusion la différence personnelle de son hypostase, selon laquelle il est différent du Père et de l'Esprit. Il a pris chair de l'Esprit Saint et de la Sainte Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, et s'est fait homme parce qu'il est devenu un homme parfait par l'assomption d'une chair douée d'une âme intellectuelle et raisonnable. Chair qui reçoit en lui son hypostase, c'est-à-dire l'être et le subsister. Dès sa conception, elle est unie au Verbe, car le Verbe est lui-même la semence de sa propre incarnation volontaire. Ainsi, il est devenu composé selon l'hypostase, lui qui par nature est simple et non composé. Donc vous voyez que c'est bien l'assomption se fait par là où est la différence personnelle de l'hypostase par rapport au Père et au Saint-Esprit. C'est pour ça que le Père et le Saint-Esprit ne sont pas eux-mêmes incarnés. Donc le Christ n'est pas une nature composée, et cela va maintenir quoi ? Le fait que l'union hypostatique permet de maintenir la divinité et l'humanité dans leur intégrité. Ici, il y a confusion. Vous voyez, c'est Chalcédoine, sans confusion ni séparation. L'union de Dieu et de l'homme, sans confusion ni séparation. Eh bien, ici, vous avez forcément confusion, puisque vous avez les caractères propres de la nature humaine qui entrent en quelque sorte en composition avec ceux de la nature divine. Et donc, vous arrivez à des choses totalement contradictoires, par exemple, que de dire que Dieu est mort. Ici, on va pouvoir dire que un de la Trinité est mort dans la chair. Ici, on va être obligé de dire que Dieu est mort dans son divinité. Ce n'est pas là du tout la même chose. Dire que le Fils de Dieu, dans ce qui le distingue du Père et du Saint-Esprit, est mort dans la chair parce que la chair est morte, et que cette mort, le Fils de Dieu l'a fait sienne, ne veut pas dire qu'il est mort selon la divinité. Vous voyez la différence entre nature composée ou hypostase composée. Ça va avoir des conséquences particulières et ça va éviter d'utiliser des termes totalement équivoques. Voyez le numéro 9. C'est par le mode de l'économie et non selon la loi de nature que le Verbe de Dieu est venu vers les hommes dans la chair. Dans la composition, nous l'avons vu, s'il y avait une nature composée, ça voudrait dire qu'il y a comme une nécessité pour Dieu et l'homme de s'ajointer dans une nature mixte. Comme dans la nature humaine, il faut que l'âme et le corps s'imbriquent l'un dans l'autre pour qu'existe l'être humain. Rien de cela en Dieu, l'incarnation est totalement libre et gratuite de la part de Dieu. Il n'y a aucune nécessité. Et c'est pour ça qu'introduire une transformation en Dieu par l'incarnation sous-entend une certaine nécessité, c'est-à-dire que Dieu aurait besoin en quelque sorte de l'incarnation pour peut-être pour se réaliser, ou en tout cas pour connaître des choses. On entend ça parfois dans les sermons. Par l'incarnation, le Christ a su ce qu'était être homme. Mais ça n'a aucun sens. Pensez que tout notre être est soutenu dans l'être par l'acte créateur. Donc Dieu nous connaît, non seulement nous, mais tout ce qui existe. Et le connaît par l'acte d'être. Parce qu'il y a de plus intime à nous-mêmes, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Que voulez-vous que ça puisse apporter à Jésus d'avoir une connaissance expérimentale de l'humain? Bien sûr, il a une connaissance expérimentale qu'il n'avait pas en Dieu, mais la connaissance divine est infiniment plus complète que la connaissance expérimentale que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Il est notre créateur et il nous soutient dans l'être, vous voyez? Oui.
Donc peut-être que Hérode dit qu'il a pris de ses souffrances l'obéissance.
Mais parce que là, le « il » vise le verbe dans la nature humaine. Mais l'obéissance, c'est la modalité que prend la relation d'amour éternel du Fils à son Père, dans l'Esprit Saint, dans une humanité qui, elle, est une créature. Le Fils n'est pas obéissant comme Fils dans la Trinité. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut reprocher à Balthazar, d'avoir fait entrer des choses qui sont propres à l'humanité. Et donc, au Fils, dans la condition humaine, de l'avoir transposé dans la Trinité. Ce qui, dans la Trinité, est communion dans un même vouloir. Le vouloir est unique dans la Trinité. Toutes les opérations trinitaires sont communes. C'est Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Un seul exister, un seul vouloir, une seule opération, etc. Tout est commun. Mais, effectivement, dans une relativité qui fait que le Fils se reçoit éternellement du Père. Eh bien, c'est se recevoir éternellement du Père, qui n'est pas du tout une obéissance, qui est une communion consubstantielle, quand dans l'humanité assumée, prend la forme de l'obéissance. Parce que là, on est dans une différence ontologique de nature. La nature humaine de Jésus est bien créée. Et donc, ce qui dans le Fils éternel est communion d'amour se traduit dans l'humain en obéissance. Donc on peut faire droit, si vous voulez, à tout ce que dit l'Écriture, et en même temps, vous voyez, c'est toute cette distinction entre ce qui relève de l'économie de l'incarnation et puis ce qui relève proprement de la vie de la Trinité, ce que les pères grecs appellent la théologie, la théologia, c'est-à-dire ce qui est proprement trinitaire. Et ne pas confondre les deux. Si on confond les deux, on va vers la nature composée à ce moment-là. Voyons le numéro 9. Donc c'est par le mode de l'économie, voyez, là, nous avons ici la distinction, et non selon la loi de nature, que le Verbe de Dieu est venu vers les hommes dans la chair. Ainsi donc, le Christ n'est pas une nature composée, à l'encontre de la nouvelle théorie de ceux qui vident l'Évangile, car il existe selon un mode hypostatique totalement indépendant de la loi de la nature composée. Mais il est une hypostase composée qui ne comporte pas de nature synthétique qui lui soit attribuée selon les sens. Cela est vraiment paradoxal. Là, on touche le mystère. Contempler une hypostase composée sans que la nature composée lui soit attribuée selon les sens. Numéro 10. Le fait de ne pas être sans existence ne rend pas la nature elle-même hypostase, mais en hypostasier. La nature humaine du Christ a un existé créé. Maxime le dit, elle n'est pas sans existence. Mais cet existé est complètement dépendant, appartient totalement à l'hypostase du Fils, à l'hypostase éternelle du Fils. Et cela rend la nature, ce que nous appelons, nous, dans notre langage catholique, nature assumée, les orientaux l'appellent nature en hypostasie, c'est-à-dire prise complètement, appartenant totalement à la personne du Verbe. C'est la même chose, assumer ou en hypostasie, c'est exactement la même chose. Donc le fait de ne pas être sans existence ne rend pas la nature elle-même hypostase, c'est-à-dire que la nature humaine du Christ existe, mais elle n'existe pas comme une personne, puisque elle par elle-même, puisqu'en fait, la clôture personnelle, ce qui fait qu'elle est, qui rend l'existé personnel, ne se trouve que dans le Verbe, que dans le Fils éternel. Et c'est ça l'onhypostasie, de sorte qu'elle n'est pas saisie seulement mentalement comme un accident, de la nature divine, mais qu'elle est contemplée réellement comme forme d'être. Ainsi donc, l'anipostasie porte une nature en acte d'existence, c'est-à-dire douée d'une existence naturelle et essentielle, et qu'elle porte aussi une nature active et opérative, signifie proprement que cette nature est douée de ses puissances naturelles et essentielles. Ce n'est pas une nature inerte, c'est une nature avec toutes ses capacités d'intelligence, de volonté, d'opération, etc. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que Jésus était comme nous, selon la nature. Donc, confesser au sujet du Christ que ses natures ne sont pas sans existence, ni sans énergie, sans opération, ce n'est pas en conclure qu'elles sont des hypostases ni des agents, mais c'est confesser leurs existences et leurs énergies essentielles et naturelles pour confirmer et tenir ferme le mystère du Dieu Verbe incarné et agissant, lequel est à partir des natures, en elles et selon elles. Et Maxime aime bien aussi la formule « il est ses natures, il est Dieu et homme ». Le numéro 11 va nous faire entrer dans ce que je vous ai, ce sur quoi j'ai mis l'accent, sur la jonction, l'assomption qui se fait entre la relation hypostatique du Verbe dans la Trinité et les propriétés individuantes, les caractères individuants de l'humanité du Christ. C'est par les propriétés qui différencient par rapport à nous, les autres hommes, la chair individuelle du Christ, attention, chair, hein, pour les pères grecs, c'est toujours l'humanité du Christ. Ce n'est pas seulement le corps. Hein, c'est le terme est biblique et veut dire le Verbe s'est fait chair, c'est le Verbe s'est fait homme. Hein. Donc c'est par les propriétés qui différencient par rapport à nous, les autres hommes, la chair individuelle du Christ, que celle-ci possédait l'identité selon l'hypostase avec le Verbe. Et c'est par les caractères qui le distinguaient du Père et de l'Esprit comme fils distinct que celui-ci gardait l'unité avec la chair. La chair du Christ est en hypostasié en tant que la création de son être est en lui et de lui. Et le devenu sa chair selon l'union, uni à lui selon l'hypostase, en raison de la propriété qui la distingue de la multitude des hommes. Ceci me semble très intéressant et c'est ça qui va donner la clé de la solution de la théologie de l'icône du Christ contre l'iconoclasme. Puisque, en représentant le visage du Christ, on va rendre présent, de manière relationnelle, le mystère du Fils. Et c'est ainsi que l'icône du Christ va pouvoir être même adorée. Non pas qu'on adore le bois et la peinture, etc., mais on adore la personne éternelle du Fils qui se trouve reproduite, bien sûr, intentionnellement reproduite, dans les traits de son visage humain. Ça, ce n'est vrai que pour l'icône du Christ. Les autres ne sont que vénérés. Mais l'icône du Christ, saint Thomas dit exactement la même chose dans la Tertia Pars, la croix du Christ, nous parlons de l'adoration de la croix le vendredi saint, hein, c'est une adoration, non pas une adoration substantielle, comme c'est le cas dans l'Eucharistie, mais une adoration relationnelle. C'est-à-dire qu'en nous prosternant devant la croix ou devant l'icône du Christ, nous adorons celui qui y est représenté. Donc ça suppose qu'effectivement la personne du Verbe par le mystère de l'incarnation peut être représentée, rendue présente intentionnellement, bien sûr c'est pas une présence substantielle comme celle de l'Eucharistie, c'est un autre type de présence mais qui va donner toute cette théologie de l'icône. Donc c'est l'aboutissement du livre du Père Schoenborn, mais tout le livre est un véritable parcours du développement de la christologie chez les pères orientaux. C'est une vraie merveille, vraiment une vraie merveille, parce que c'est à la fois un livre qui peut être, comment dire, une sorte de parcours de la Christologie des Pères, mais en même temps, comme il a pris une ligne directrice intégratrice, on a une sorte de parcours newmanien avec un développement extrêmement homogène et harmonieux où on voit progressivement, si vous voulez, l'intelligence de la foi se saisir de mieux en mieux du mystère du Christ, autant que l'être humain le peut. Mais déjà, ce qui en sort est déjà magnifique, enfin extraordinaire. C'est l'heure. Très bien. Thank you.